Rendons grâce à Dieu pour cette troisième journée.
Et nous
bénissons Dieu pour les éminents hommes de Dieu qui sont ici à Lisanga, qui nous accompagnent depuis le début de la semaine.
Les
cinq maladies qui rongent l'église de mon pays.
Et
ce que j'appelle mon pays, c'est sûr, c'est aussi votre pays. Après la grande introduction dans laquelle nous avons parlé des motivations, des raisons d'être de cet enseignement. Nous avons commencé à aborder le deuxième point, les maladies de l'église de mon pays. Hier, nous avons en deux points abordé deux aspects. Nous avons d'abord essayé de définir la maladie, c'était quoi. Et nous avons fait mention des 10 principes attachés à la maladie. À la fois sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Aujourd'hui, avant juste d'aborder les tout derniers principes et d'aller directement à la première maladie, je me réfère avec vous quelques lectures 3. Et ces lectures ne sont que des relectures, j'allais dire.
En
Roi chapitre 13.
Au
verset 33. Après cet événement,
Jéroboam
ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il cria des nouveaux prêtres des hauts lieux. Et cela parmi tout le peuple.
Et
soulignez bien ce qui va suivre. Quiconque en avait les désirs, il est consacré prêtre des hauts lieux. Nous lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous partons du verset 13 au verset 15. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En les faisant, ils disaient: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les sept fils
d'Eskeva,
juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Déclinez votre identité, qui êtes-vous? Nous terminons avec le premier livre de Samuel, au chapitre 2, et là nous lirons du verset 22 au verset 24. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes, celles qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Hier, en terme, nous avons abordé un dixième principe attaché à la maladie. Nous avons dit qu'on ne pouvait pas ne pas voir les ravages de la maladie sans tirer des leçons. Et ainsi devenir sage. Que des gens qui vivent comme s'il n'y a pas eu un passé. Alors qu'il y a des histoires devant nos yeux qui sont comme des matériels didactiques. Qui nous disent: voilà, celui-ci a fait ça et voilà où ça l'a amené. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si tu fais ça, tu finiras aussi là. Le tout dernier principe, c'est que la maladie de l'Église de la République démocratique du Congo a deux caractéristiques. La première caractéristique, elle est certes à ses débuts, mais des débuts assez avancés. Maladie grave, mais récupérable. Maladie grave, mais que l'on peut encore éradiquer. La deuxième caractéristique de la maladie de l'Église de mon pays, elle touche certes tous les corps. Mais le point de départ, ça a été les sacerdotes, ça a été la chair, ça a été la direction ou la tête. Il est rare. Une maladie commence par attaquer les bancs pour atteindre la chair. J'aimerais même le dire autrement. Toute maladie qui commence par les bancs ne touche jamais toujours la chair. Mais toute maladie qui commence par la chair finit par toucher les bancs. C'est pourquoi nous qui nous tenons ici, nous devons faire attention. Je le disais hier, nous nous trompons. Nous ne transmettons pas toujours ce que nous disons, nous transmettons surtout ce que nous sommes. Ma prière est que Dieu nous aide et nous qui avons la responsabilité de la direction à être sérieux, à savoir que nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Dans la Bible, il nous a montré trois cas de figure en termes de leadership.
Juges 21,
verset 25. On part d'un premier cas de figure, absence de leadership. En ces temps-là, il n'y avait point de chef, point de roi. Et la conséquence, anarchie. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Deuxième cas de figure, que nous montre Juges chapitre 5, verset 6 ainsi que verset 7. Il y a certes présence de leaders, certes présence de chefs, mais des gens occupant les postes manquant les contenus, la compétence. Au temps de Shamgar, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Ils sont obligés de se débrouiller. Pourquoi? La Bible donne la raison. Parce que les chefs étaient sans force. Il y avait certes des gens devant, mais qui n'arrivaient pas à jouer le rôle. Le troisième cas de figure, c'est la présence des vrais leaders, des vrais chefs. Dans Juges chapitre 5, au verset 2, Déborah fait cette merveilleuse déclaration. Elle dit des chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple s'est montré prêt à combattre. Les gens ne savent pas toujours ce qu'ils doivent faire. Ils ont besoin d'une tête qui doit leur dire allons dans cette direction. Il est étonnant de voir combien de centaines de wagons qui pèsent plus que la locomotive sont tiré par la locomotive. La seule locomotive qui est devant peut tirer plusieurs wagons. Leader, nous devons avoir conscience de notre influence. J'ai quelquefois vu l'influence des leaders sans qu'ils disent aux gens. J'ai connu un pasteur sans être un West Africain qui s'habillait toujours en tenue de West Africain. Et dans son église, s'il y a 100 hommes, il y a 80 qui s'habillent comme ça, sans qu'ils leur disent. Renard Bonkès est venu ici en 90, j'étais encore jeune dans le ministère. Quand il prêchait, il disait et tous les jeunes serviteurs, c'était j'aime beaucoup les chemises sans col et sans cravate. J'ai pas dit aux gens de Philadelphie, c'est comme ça que vous devez vous habiller. Je vois ça de temps en temps. Et quand je dis de temps en temps, je suis modeste. Il y a certains qui ont mes tics verbaux sans être moi.
Et ça, je suis
j'ai entendu quelqu'un dire allez, puis j'ai dit mais quelqu'un, j'entends quelqu'un qui dit souvent allez.
Allez, ming ming.
Amen.
Amen.
Et si la maladie commence par la chair, la guérison commencera aussi par la chair. Et parmi ces maladies, il y a la première. Que nous avons appelé la maladie de Jéroboam. Et la maladie des fils d'Eskeva. Absence d'appel authentique. Et absence d'expérience authentique d'avec Dieu. Cette maladie a affaire à deux choses essentielles. La maladie de Jéroboam et de fils d'Eskeva
a
affaire premièrement à notre relation avec Dieu, c'est-à-dire sa qualité et à la vocation des hommes et des femmes qui se disent appelés de Dieu. Qu'il y ait des hommes qui conduisent les autres qui n'ont pas ou qui n'ont plus de relation avec Dieu.
Qu'il y ait
des gens qui se tiennent devant que Dieu n'a jamais appelé. Et on n'est pas étonné qu'il y ait une baisse dans la qualité de vie de l'église de mon pays. Et dans le cas de la maladie de Jéroboam et des fils d'Eskeva, il y a 5 cas de figure. Le premier cas de figure, il y a soit absence totale de relations avec Dieu. Dans un homme ou dans une femme de Dieu qui conduit et qui dirige. Deuxième cas de figure, il y a baisse dans la qualité de la relation. Il est devant, il conduit, il dirige, il influence. Mais la qualité de la relation a baissé. Il n'a pas tout perdu. Mais il n'a plus aussi tout comme autrefois. Troisième cas de figure. C'est perte totale de la relation. Quand je dis perte totale, c'est différent du premier cas de figure où je parle d'absence, parce qu'absence il n'y a jamais eu. Mais dans la perte totale, quelqu'un a eu quelque chose. Et puis pour certaines raisons, il a perdu. Quatrième cas de figure, il y a des gens qui sont dans la moisson sans appel. Ils se retrouvent dans une position sans que Dieu soit l'auteur de cela. Cinquième cas de figure, il y a de ceux qui se retrouvent dans une position de direction et d'influence, mais trop tôt. Des gens qui auraient dû s'asseoir et recevoir encore. Ils sont soit improvisés eux-mêmes ou ils sont improvisés par d'autres leaders. Seigneur, aide-nous. Et le premier cas de figure que j'ai mentionné, c'est qu'il y a aujourd'hui dans les sacerdoces des personnes qui n'ont jamais rencontré l'homme de Galilée, qui ne sont jamais passés par la repentance et la conversion. Et parce qu'ils ne sont jamais passés par la repentance et la conversion, ils ne peuvent pas expérimenter ce que Jean-Baptiste a appelé produire des fruits digne de la repentance. Le leur demander, c'est trop. Ils ne peuvent parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. C'est comme si un enfant qui est dans le ventre, tu veux lui dire, apprends à marcher. Pour qu'il marche, il doit sortir.
Oh,
mais vous qui prêchez l'évangile, vous qui avez des dizaines, des centaines et des milliers, j'aimerais vous poser la question, mais poser la question, es-tu né de nouveau? Es-tu passé par la véritable nouvelle naissance? Et nous l'avons lu dans 1 Roi 13:33. Des gens qui s'improvisent sans une relation réelle. Jéroboam vient dire, qui veut? expérience avec Dieu ou pas, viens. Seigneur, épargne-nous de cela. Il est étonnant quand on lit 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 13. La Bible nous parle des fils du sacrificateur Élie. En plaçant côte à côte, ces versets en place côte à côte, trois termes qui normalement ne peuvent cohabiter.
C'est
un peu comme l'huile et l'eau. Au verset 13, ils sont appelés sacrificateurs, prêtres, ceux qui tiennent les choses sacrées et font les services. Titre sacrificateur. Quand ils passaient à la cité, on les appelait sacrificateurs. Révérend Ofni. Révérend Ofiné. Mais bizarre, le verset 12 dit ils ne connaissaient pas l'Éternel. Sacrificateur, mais ne connaissant pas Dieu. Le terme connaître là, c'est le même terme qui est utilisé dans Genèse 4:1. Quand on dit Adam connut Ève sa femme, c'est pas qu'avoir des informations, c'est être en relation mais intime. Sacrificateur, mais ne connaissant pas Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des gens encore pastoral ne connaissant pas Dieu. Il y a des gens qui conduisent, mais ne connaissant pas Dieu. Et il y en a plein. Non seulement qui dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu, les versets ajoutent, ils étaient pervers. Pervers. Seigneur, on peut être sacrificateur et pervers aussi. Et ne pas connaître Dieu. Alors nous avons accueilli les hommes de Dieu avec solennité. Si vous êtes encore là, levez la main. Moi, je lève la main. Pasteur, comment tu es ici? Alors, si tu es assis à côté d'un homme de Dieu, pose la question, est-ce que tu connais Dieu? Tu es pervers? Il ne suffit pas d'être appelé sacrificateur. Mais est-ce que tu connais l'Éternel? Est-ce que tu les crains? La version français courant va plus loin. Français courant dit qu'ils étaient des vauriens. Ils ne se préoccupaient pas du Seigneur. Serviteurs du Seigneur, mais qui ne se préoccupent pas du Seigneur. Au fait, ils n'étaient pas des serviteurs de l'Éternel, ils se servaient de l'Éternel. Ils ont passé des années dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel n'avait aucun secret. Finé et Ophni connaissaient tous les ustensiles. Ils connaissaient la maison de l'Éternel, mais le Dieu de la maison ne les connaissait pas. Ils avaient toutes les informations sur la maison de l'Éternel, sauf sur les propriétaires de la maison. Tu peux avoir un doctorat en théologie et ne pas connaître Dieu. Tu peux avoir plusieurs maîtrises en divinité et ne pas connaître Dieu. De vauriens qui ne se préoccupait pas du Seigneur. Comment on peut apparemment le servir sans se préoccuper de lui? Parole de vie va plus loin.
Parole de vie,
il dit, il ne valait rien ses enfants. J'ai dû lire la suite dans cette version. Il ne reconnaissait pas l'autorité du Seigneur. Toi qui prêches Christ, tu aimes le présenter comme sauveur. Mais j'aimerais te poser la question, est-il aussi ton Seigneur? Tu aimes parler de lui comme sauveur. Est-il aussi ton Seigneur? Et le terme Seigneur utilisé dans toute la Bible,
c'est
un terme tiré du féodalisme.
On
parlait du suzerain, un roi qui avait tout pouvoir et toute autorité. Et tout celui qui était suzerain, il y avait au-dessus de lui des vassaux. Qui n'avait pas de volonté propre, qui lui était totalement soumis. Seigneur, je n'aimerais pas seulement que tu sois mon sauveur, je veux aussi que tu sois mon sauveur, mon Seigneur et mon sauveur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, la plupart des fois, il s'est fait appeler serviteur de l'Éternel. Et le terme serviteur, en grec doulos, qui veut dire esclave volontaire. Celui qui n'a pas de volonté propre devant son Seigneur.
Et
acte 19 que nous avons lu, verset 13 à 15, nous parle des fils d'Esqueva. Prêt à se servir du nom sans être en relation avec les propriétaires du nom. Mais ils sont prêts à se servir de ces noms au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Mon pasteur me disait cette vérité. C'est vrai, c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est pas très loin. Il dit les démons et les diables ne sont pas des moyens pour certifier les appels, mais quelquefois ils connaissent mieux les vrais appelés des faux. Les démons, malgré qu'ils sont démons, ils ont dit Jésus, nous connaissons. Paul, nous connaissons. Et vous, présentez-vous. J'ai jamais oublié. Jeune dans la foi. Nous sommes devenus un cas de délivrance. Et ça faisait 30 minutes, on était en train de lutter. Les démons ont résisté à partir. Et puis un frère à nous qui est venu. Mais pourquoi vous traînez? Quand il s'est avancé, les démons ont dit Alingala, yo kututika.
Les démons lui ont dit toi, laisse.
Olingina panzayo.
Tu veux que je dise tout?
L'homme a 20 euros
à
la kiwa.
Hier à 20 euros,
on a vu les frères calmement. Ils ne sont pas omniscients, mais ils connaissent des choses. Et alors que notre leader faisait la délivrance, il a arrêté et dit, toujours continuer, mais cure d'âme après.
Celui qui faisait la délivrance a dit, on va continuer, mais après, tu vas passer à la cure d'âme.
Parce que les démons ont donné des informations. Et quand il est venu là, commencer hier à 20h, tu étais où?
J'étais avec Ewasso.
Ce n'est pas le Saint-Esprit.
Et ça, mon livre, mon sang, tout est.
Dans Matthieu chapitre 7.
Dans Matthieu, mon capo na sambo.
Verset 22 à 23.
C'est là, tout comme il balait, tout comme il balait.
Jésus-Christ parle du sort final.
Il y a ce sort là, souka.
De ceux qui se sont servis du nom.
Il y a bayo, ba misale la qui na kombo.
Sans être en relation avec le propriétaire du nom.
7, 22 à 23.
Permettez-moi les termes, ils ont le culot de venir revendiquer quelque chose. N'avons-nous pas prophétisé et dit par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Prophétiser, c'est dire des choses sous l'inspiration de l'Esprit. Et quand ils disent ils ont chassé les démons, ça suppose que les démons ont obéi. Ils disent par ton nom. Ils vont plus loin. N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Et il reste sur le service. Et quand Jésus répond, il ne nie pas le service. Il focalise sur la relation. Éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Un. Deux, vous qui commettez l'iniquité. J'aimerais dire, on peut commettre l'iniquité et prophétiser. J'aimerais aller plus loin. On peut commettre l'iniquité et parler et prophétiser. On peut commettre l'iniquité et faire des miracles. miracles. Les miracles, la prophétie, toutes ces choses ne sont pas les thermomètres de la sainteté. J'aimerais pas dire qu'il faut désormais douter. Non, j'aimerais dire que ce n'est pas le seul critère. C'est pourquoi j'aime dans Luc chapitre 10, verset 17 à 20, les disciples sont rentrés, Christ les avait envoyés en TP.
Pour
la première fois, ils découvrent qu'ils ont la puissance.
Que
les démons peuvent leur obéir. Quand ils arrivent devant le maître, Seigneur, même les démons étaient soumis à nous. Et ils restent sur le service. Jésus s'est réjoui, mais j'imagine qu'il bouge la tête. Il place la primauté de la relation sur le service. Il dit, réjouissez-vous non pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Réjouissez-vous de la relation. Nous ne serons pas étonnés les jours où la trompette va sonner. Ça sera un dimanche. Il est possible que des cultes continuent normalement. Pasteur et adjoint et choriste restent. Et ils verront seulement que quelques membres ont disparu.
Il
dit, mais on est.
Ça, c'est quoi ça?
Magicien contre l'église. J'ai pris. Si ça sera un dimanche, que ma prédication ne finisse pas. Celui qui voudra prendre mon micro et continuer, qu'il continue. Moi, je serai à la rencontre de celui que j'ai connu par la foi. Et en ces jours-là, comme l'apôtre Paul dit, je connaîtrai comme j'ai été connu. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les connais? Absence de relation. Deuxième cas de figure. Il y a des personnes qui ont eu une vraie relation avec Dieu à un moment de leur vie. Avec même une qualité. Et puis quelque chose s'est passé. Soit ils ont tout perdu subitement. Soit ils ont commencé à baisser jusqu'à perdre. Combien des hommes de Dieu sont encore là devant? Ils sont conscients. Certes qu'ils n'ont pas tout perdu. Mais ils sont aussi conscients qu'ils n'ont plus tout. Ils sont conscients que quelque chose s'est passé. Un roi 11, verset 14. Parlant de Samson, la Bible dit. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Oh, il n'est pas détaché totalement. Il est toujours. Mais plus tout entier. Une autre version anglaise dit, il ne fut point totalement intègre. Apocalypse chapitre 2. Verset 4 à 5. Nous parle à la fois d'un constat, mais aussi d'un appel à la repentance, et qui se termine par une menace des sanctions. J'ai souvent étudié les temps dans la parole de Dieu. L'un de nos profs nous avait donné un moment dans l'Irobi comme des voix. Étudiez les temps dans la parole de Dieu.
Ils disaient
quelquefois le message n'est pas dans ce que l'on dit, le message dans le temps.
Il dit
quand Adam et Ève pêchent, il avait dit que Dieu posait la question, Adam où es-tu? Le temps peut cacher tous les messages. A-t-il dit, où es-tu? A-t-il dit, où es-tu? Même phrase. Mais le temps cache un message. Et je peux lire le temps de tristesse dans Apocalypse 2, 4 à
5.
Le Seigneur, après avoir loué les qualités d'une église,
j'ai
pu imaginer qu'il baisse le temps.
Mais c'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Je t'en veux pour ça. Que des gens ce soir ici, que d'autres qui me suivent par la télé, que d'autres qui suivront par CD, que d'autres qui suivront par tout ce qu'il y a comme technologie aujourd'hui, j'aimerais me poser la question. Es-tu toujours celui que tu as toujours été? Que des gens pour qui le Seigneur est nostalgique. Le Seigneur regarde ta relation avec d'autres fois. Il a la nostalgie. Il dit, j'aimais le Roland d'autres fois. L'actuel, c'est pas ma tasse de thé. Est-ce que Dieu est content de toi aujourd'hui? C'est pas un homme, c'est Dieu qui dit j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Remarquez, il n'a pas dit que tu n'aimes plus. Tu aimes, mais plus comme autrefois. Tu as un amour, mais en qualité,
qui
est différent de celui d'autrefois. Je ne dis pas que tu m'as abandonné. Mais qualitativement, ce n'est plus la même chose.
Il
y a des gens qui montent en notoriété, mais qui perdent en qualité dans la relation. Que des gens qui montent en célébrité, mais qui perdent en qualité dans la relation. Seigneur, entre la célébrité et la relation, je choisirai la relation. Que me sert-il d'avoir mon visage sur toutes les banderoles et ne pas être en contact avec toi? Que me sert-il de ne jamais passer inaperçu? Partout on me connaît. Et toi, tu ne me connais plus. Tu as quelque chose contre toi. Et il est dit, et il demande à ces jeunes prédicateurs d'à peine 50 ans de te dire, j'ai quelque chose contre toi. Il me dit de te dire, je t'en veux. Il mérite de te dire, comme on nous disait quand on était petit, petit aux anamitif nangai.
J'ai contre toi, j'ai quelque chose contre toi.
J'ai une dent contre toi. Mais il
ne
s'arrête pas là.
Le
Dieu bon.
Il
dit, souviens-toi d'où tu étais. Fais l'anamnèse. Fais un retour dans le passé. Localise quand ça s'est passé. Remarque, c'était quand j'ai commencé à contacter telle personne. Quand j'ai commencé à lire tel livre. Souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que c'est là qu'il y a un début. Et bizarre, Dieu ne dit pas, je veux t'aider à te souvenir. Il dit, c'est à toi de le faire. J'aimerais supplier un homme. Aîné.
Yaya.
Contemporain, ceux qui sont de la même génération que moi. Plus jeune.
Elenge.
Souvenez-vous quand c'est arrivé. J'aimerais vous dire, aîné et ami de ma génération et plus jeune, il est possible que vous redeveniez celui que vous étiez. Dieu n'attend que ça.
S'il
y a une phrase que j'aime dans la Bible, c'est quand ce jeune homme qui est parti loin de son père, qui est tombé dans la déchéance, je ne sais pas si dans votre Bible, Bible, c'est écrit. Dans la mienne, il est dit, étant rentré en lui-même. Seigneur, donne ce soir que quelqu'un rentre en lui-même. Il avait de la barbe sale. Il avait des ongles pleins de saleté. Il avait maigri. Il n'avait pas de chaussures. Il
devait
avoir des chics aux pieds. Mais dans sa tête, il a fait revenir l'image du petit prince qu'il était dans la maison de son père. Et il s'est regardé. Il dit, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Ça c'est
c'est ma caricature. Je n'ai pas toujours été comme ça. Seigneur, donne-moi quelqu'un ce soir qui va rentrer en lui-même, qui va se souvenir. Souviens-toi où tu es tombé. Ce que j'aime, c'est que malgré ta déchéance, Dieu a foi en toi. Il dit, pratique tes premières œuvres. Il croit que tu peux encore les faire. J'aimerais te dire, même si toi-même tu ne crois pas, lui, il croit. Je t'entends dire dans ton cœur, jeune homme, tu ne sais pas, je suis allé trop loin. J'aime cette belle phrase que cet homme dont le corps repose à son abattre m'a dit un jour. Pour un homme de Dieu véritablement appelé, s'il se trompe de chemin alors qu'il est sur la mauvaise voie, il dit, Dieu met toujours le billet retour dans sa poche afin qu'aussi loin qu'il va arriver, quand il aura la volonté de retourner, qu'il ait aussi les moyens. J'aimerais te dire, Dieu croit que tu peux redevenir celui que tu étais. Dieu croit que tu peux redevenir celle que tu étais. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, qui a redonné à Samson plus de victoires le jour de sa mort, quand son vivant de le faire encore. Pourquoi j'aime quand les Gaël chantent? C'est encore possible. C'est pas impossible. Pratique tes premières œuvres. Et puis vient la menace. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place. Il promet la sanction. Mais il est un Dieu tellement bon qu'il termine par le positif. À moins que tu ne te répondes. Je veux te frapper. Mais tu peux m'éviter de faire ça. À moins que tu ne te répondes. Qu'est-ce que tu as perdu? Et vous savez, quand on a perdu, c'est visible. Un jour, je suis arrivé chez le pasteur Vernon un jeudi. Je ne connaissais pas trop friand de suivre les prédicateurs de mon pays. Et Jean, je le trouve au salon. On vient qu'il était en train de passer, puis il a trouvé un célèbre prédicateur d'ici. Il a suivi trois phrases, je l'ai entendu dire, c'est pas possible. Il m'a dit, Dalo, asseyons-nous. Et on l'a suivi durant 30 minutes. J'ai vu le feu Jacques André Vernon suivant, il pleurait et il bougeait la tête. Et puis à la fin, il s'est retourné vers moi, en me tenant la main. Et ce jour-là, j'ai découvert son cœur. Il dit, prions pour cet homme de Dieu. Je lui ai dit, pourquoi? Dit les gens qui disent qu'il n'est pas serviteur de Dieu ont tort. Il dit, il y a des vérités qu'il dit sont tellement profondes. Ça montre que c'est quelqu'un qui a connu Dieu, qui l'a touché à un degré élevé. Mais il dit, j'arrive pas à comprendre. Il alterne des choses profondes et aux bêtises profondes. Il dit, il n'est jamais équilibré. Il dit, dans ses hauts, il est très haut, et dans ses bas, il est très bas. Il dit, c'est la preuve qu'il a touché Dieu. Il dit, quelque chose a dû se passer dans sa vie. Il a perdu quelque chose qui n'arrive plus à retrouver. Soit il est au courant, il s'entête, soit il n'est pas au courant. Et là, dans son salon, je me suis mis à genoux avec lui. Et on a prié 40 45 minutes pour quelqu'un qui l'avait ni demandé et qui ne le savait pas. J'ai quitté ce jour-là, j'avais une leçon, je dis Seigneur, donne-moi un tel cœur. J'aimerais vous dire, si vous connaissez quelqu'un qui est tombé, ne vous limitez pas à critiquer. Mettez-vous aussi à genoux. Présenté devant Dieu, car là où tout a échoué, la prière est réussie. Je le crois, la prière peut changer de vie, la prière peut faire revenir des personnes. Si vous voulez croyez avec moi, aidez-moi à dire amen. Troisième cas de figure, il y a aussi ceux qui ont perdu tout et totalement. Ils n'ont plus de relation avec Dieu. Et dans cette catégorie de ceux qui ont perdu toute relation, il y a trois sous-groupes. Le premier sous-groupe, c'est le ceux qui savent qu'ils ont perdu. Seigneur, aide-moi si j'ai perdu de les savoir. Luc chapitre 2. Versets 44 à 45. Après avoir eu un temps d'ignorance, vous l'avez dit, croyez que Jésus était avec le groupe des voyageurs. Finalement, ils ont regardé, il n'est pas là. J'aime ce que la Bible dit. Ils rebroussèrent chemin. Seigneur, si tu n'es plus là, aide-moi à le savoir. Et à faire les trajets qu'il faut, à payer les prix qu'il faut pour aller te retrouver.
Mais
nous ne nous limitons pas de fausses assurances. Quand il marchait au départ, il disait, c'est sûr, il doit être dans la masse. C'est sûr, il doit être là. Fais un check, vérifie, est-il vraiment là? Deuxième cas de figure. Ceux seuls qui ne les savent pas. J'ai toujours de la tristesse à lire ce passage. Les juges 16, verset 20. Moi,
je
n'ai pas plus de 10 centigrammes de cheveux quand je suis rasé. Si on le met sur la balance, ça ne va pas beaucoup bouger. Mais quand le peu qui me reste est coupé, je le sens. Mais Samson avait au moins 5 kilos de cheveux.
5
kilos.
Kilos.
Les tresses ont été coupées. Pas conscient.
Ayebite.
Moi, avec mes quelques centigrammes, je le
sais.
Samson, les Philistins sont sur toi.
Samson,
je me dégagerai comme les autres fois. Je m'en sortirai comme les autres fois. Écoutez cette phrase triste que ma Bible m'a dit.
Il
ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Il croit qu'il continue à être celui qu'il a cessé d'être. Il croit qu'il continue à avoir ce qu'il a cessé d'avoir. Que des gens qui ont perdu ne le savent pas. Assurance trompeuse. Jérémie se présente au temple. Il dit à ce groupe, ne vous livrez pas des espérances trompeuses.
Quoi?
Dérober, tuer. Offrir de l'encens à Baal. Et vous venez et vous dites, nous sommes délivrés. Espérance trompeuse. Seigneur, aide si l'église du Congo a perdu, qu'elle le sache. Troisième catégorie. C'est ceux qui ne veulent pas savoir. La deuxième catégorie, ils ne savent pas. Mais la troisième, ils ne veulent pas savoir. Malgré les avertissements. Parce qu'ils voient quelques reliquats, ils pensent qu'ils sont. Ils ont inventé leur théologie. Puisque je prophétise malgré mon impudicité, c'est que Dieu est encore là. Il Je tombe chaque semaine. Je vis avec des prostituées. Mais ça, c'est terminé. Les gens soulèvent les chaises. Théa. Et je prends cet enthousiasme comme l'approbation que Dieu a avec moi.
Il
y a des gens qui ne veulent pas savoir. Laissez-moi vous dire, on peut perdre Dieu, ne plus l'avoir, ne plus avoir son approbation et conserver plusieurs choses. On peut perdre Dieu et conserver la connaissance. On peut perdre Dieu et conserver l'influence sur les foules. On peut perdre Dieu et augmenter en relation, côtoyer même les plus grands. On peut perdre Dieu et remplir le stade. On peut perdre Dieu et avoir des comptes en banque remplis à cause de Dieu. Parlant à son fils dans la foi, Paul dira à Timothée,
Paul a dit à Timothée,
1 Timothée
1, 18
à
19.
Combat les bons combats de la foi. Garde une bonne conscience.
Il
dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage quant à la foi. J'aime souvent le répéter, mais je le sens dans mon cœur, ça monte. Le pasteur Vernon me disait, la conscience est la partie du divin qui se reste dans chaque homme malgré la chute.
Et
chez nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, le Saint-Esprit coopère avec notre conscience pour nous rappeler à l'ordre. J'aime cette dernière phrase qu'il me disait le plus souvent. Il disait, la conscience est comme un aiguillon qui nous pique quand nous sommes sur le point ou quand nous sommes en train de vouloir dépasser les bornes établies par Dieu. Ça te pique. Ça te dit, hey, attention. Et il a dit cette troisième phrase que j'oublie jamais. Il dit, la conscience a deux manières de fonctionner. Elle parle. Ça c'est un. Mais elle nous laisse l'action. La conscience te dit ce que tu dois faire. Mais elle
ne
fera pas les choses à ta place. C'est la conscience qui te parle. Quand le soir à 23h, il n'y a personne. Et en zappant, tu tombes sur une chaîne ou un film pornographique. La conscience te met mal à l'aise. Mais la conscience n'appuiera jamais la télécommande. Les malaises que ça te met, ça veut te dire arrête.